RFJ Info.
Le journal de François Comte.
Madame, monsieur, bonjour. Les élections cantonales jurassiennes ont rendu leur verdict. La composition définitive du Parlement est connue depuis la fin de matinée avec l'arrivée des résultats de Mauvelier. Tour d'horizon complet dans ce journal. Le nouveau Parlement jurassien apparaît assez largement renouvelé à l'issue des élections. Plusieurs partis voient leur groupe modifié et rajeuni. La stabilité et l'expérience dominent en revanche au PLR. Une vie politique qui restera liée au débat sur la Suisse et l'Europe. René Felber est décédé à 87 ans. Le socialiste neuchâtelois avait également été le premier président de l'Assemblée interjurassienne. Météo, du soleil, mais matinée de quelques nuages cet après-midi. Les températures oscilleront entre 11 et 14 degrés. Le temps s'annonce un peu plus ensoleillé demain. Les urnes de Mauvelier ont enfin livré leur secret peu avant 11h ce matin. Il s'agissait de la seule commune à ne pas avoir donné ses résultats hier soir à minuit à la suite d'un souci de recomptage. Les résultats de la commune vadaise n'ont finalement pas fait bouger les lignes par rapport à hier soir dans l'élection au Parlement jurassien, Jérémy Pignard.
Effectivement François, les jeux étaient faits finalement après les résultats de Soyères qui eux avaient fait penser la balance hier soir peu avant minuit. C'est pour ça qu'on a des petits yeux. Entre le PDC et l'UDC, les agrariens finalement limitent la casse et ne perdent qu'un seul de leurs quatre sièges dans la vallée de Delémont. L'autre partie du centre droit qui trinque, c'est le PDC qui perd un siège dans la vallée. Ils ne seront plus que 6 députés vadais. La tendance générale qui se confirme aussi dans le district de Delémont, c'est l'avancée des Verts. Ils gagnent un troisième siège. Les Verts libéraux, eux aussi, gagnent un représentant comme en Ajoie. Et les socialistes parviennent à gratter un siège pour compter 8 députés vadais dans leur délégation. C'est un record. Mais toute la gauche ou le centre gauche n'a pas le sourire ce midi. Grimace et douche froide pour le PCSI qui confirme la perte de son siège dans la vallée de Delémont. Le PLR ne bouge pas et sécurise ses trois sièges, tout comme le CSPOP qui maintient de justesse ses deux représentants aux législatives cantonales.
Et avec le district de Delémont, la composition complète et définitive du Parlement jurassien désormais connue, la majorité de droite centre-droit s'affaiblit, Jérémy.
Elle n'est plus aussi évidente que par le passé et c'est l'un des grands enseignements de ces élections au Parlement. Les lignes François se resserre. À gauche, ça pousse. Plus 3 sièges pour les Verts qui doublent quasiment leur délégation. Ils seront 7 députés. Plus 1 pour le PS qui aura 13 représentants. Donc la force de gauche augmente malgré la déconfiture du PCSI qui abandonne 2 fauteuils. Conséquence, en face, à droite, eh bien ça s'effiloche un petit peu. L'UDC perd un siège. Le PLR en perd un aussi. Le PDC, déception quand même. Certes, ils auront un représentant de plus qu'en fin de législature. Mais avec 15 fauteuils, c'est quand même 2 de moins qu'en 2015 lors des dernières élections. Ils en avaient même 19 il y a 10 ans, donc il y a une érosion assez nette et assez évidente. Maintenant, si on fait les calculs, UDC plus PLR plus PDC, 30 sièges, tout juste la moitié du Parlement. Et qui finalement fait basculer la majorité à droite, ce sont les Verts libéraux avec leurs 2 sièges qui font leur entrée au Parlement. Donc une majorité qui s'annonce plus instable qu'auparavant. Et sur les thèmes environnementaux, écologiques, ce sera intéressant de voir de quel côté penche la balance.
Et les noms des 60 nouveaux députés sont donc confirmés depuis la fin de matinée. Il est dès lors possible de dresser le portrait du Parlement jurassien pour la prochaine législature, soit de 2021 à 2025. Vos précisions, Nancy Chapuis.
Nous avons jeté un coup d'œil sur la moyenne d'âge de l'ensemble du Parlement qui se situe un peu en dessous de 50 ans. C'est le PLR qui détient la palme quant aux années cumulées. Les 8 membres affichent une moyenne de 62 ans. Dans ce groupe se trouve d'ailleurs le doyen Michel Perrier du haut de ses 76 ans. À l'opposé, c'est dans les rangs du Parti socialiste que va siéger la cadette du Parlement, Leïla Hanini, âgée de 27 ans. Pour autant, ce sont les députés les Verts libéraux qui ont la moyenne d'âge la plus basse. Les deux représentants ont 41 et 42 ans. Notons la belle performance des Verts avec une moyenne de 42 ans, ainsi que le PDC qui présente une moyenne d'âge de 44 ans. C'est d'ailleurs chez les démocrates chrétiens qu'on trouve davantage de nouveaux députés. Ils seront 9 élus sur 15 à n'avoir jamais siégé dans le législatif cantonal du 109 qui vient principalement d'Ajoie. Enfin, un mot sur la proportion homme-femme. La nouvelle législature 2021-2025 sera composée d'un quart de femmes et on peut dire merci aux Verts qui ont plus de la moitié d'élus féminines. Le Parti socialiste apporte aussi sa pierre à l'édifice puisque 5 femmes siégeront au Parlement. Par contre, le Parti libéral radical peut mieux faire en termes d'égalité des sexes puisqu'aucune de ses représentantes n'a été élue.
Pour commenter ces résultats, Raphaël Chalvera, nous recevons précisément en direct une représentante du Parti libéral radical jurassien.
Ah oui, bonjour Irène Donzé.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes membre du comité directeur et directrice de campagne du PLR. Alors on vient de le dire, 60 députés, 15 femmes seulement, soit un quart de l'hémicycle. Votre parti a 8 élus, mais aucune femme. Comment est-ce que vous l'expliquez, peut-être même au sens général ?
Écoutez, c'est difficile à expliquer. On a, le comité directeur a travaillé sur les listes pour mettre des jeunes, pour mettre des femmes. Et puis au final, je crois que c'est les électeurs qui élisent. Donc on n'a pas vraiment d'explication à donner. On regrette bien sûr qu'aucune des femmes qu'on avait mises sur nos listes ne figure dans le quintet, au final, si vous voulez, sur les sièges. On ne peut pas l'expliquer. C'est les électeurs qui ont décidé de qui figurerait dans notre groupe parlementaire. Et puis, on prend acte. Mais on regrette effectivement qu'on n'ait pas de femmes au niveau de notre groupe parlementaire.
Et vous avez poussé suffisamment, peut-être aussi sur cette fameuse vague violette dont certaines femmes de droite ont apporté leur soutien.
Écoutez, je crois qu'on avait des femmes motivées, compétentes sur nos listes. Elles ont fait campagne, elles ont été très présentes sur les réseaux sociaux, elles ont allé à la rencontre de la population. Et puis je crois que ça n'a pas suffi. Alors on se pose la question comme vous, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à élire nos femmes ou nos jeunes? On se pose la question, mais aujourd'hui on n'a pas encore de réponse. Et puis il faudra qu'on investigue un petit peu plus à ce sujet-là. Mais le comité directeur travaille sur ce sujet, et puis je crois qu'on ne peut que regretter ça, mais on est obligé de prendre acte.
Nancy Chapuis a évoqué également la moyenne d'âge du nouveau Parlement. Alors vous, au PLR, votre cadet, c'est Yann Ruffer, 41 oui. ans. Votre aîné, Michel Perriat, on l'a dit, 76 ans. Le PLR a mal à sa jeunesse ?
Comme je vous l'ai dit, au final, c'est l'électeur qui décide. On a vraiment, depuis plusieurs années, au niveau du comité directeur, on intègre les jeunes, on renouvelle nos membres. On a beaucoup de jeunes au comité directeur. On a mis des jeunes sur nos listes qui ont des compétences, qui ont des bons profils, qui n'ont rien à envier aux personnes qui ont plus d'expérience qu'on a aussi placées sur nos listes. Au final, c'est les gens qui sont plus visibles au niveau de la presse, qui sont peut-être plus visibles au niveau du Parlement ces dernières années, qui ont remporté les sièges. De nouveau, on se pose la question de pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à passer
des jeunes. Il y en a dans les autres partis quand même.
Oui, je sais, mais on ne peut pas l'expliquer. Puis on se pose la question de la même chose que vous. Ça nous interpelle de la même manière que vous.
Alors plus globalement, le PLRJ perd un siège au Parlement. Vous revenez à 8 élus, comme lors de la législature 2011-2015. Vous aviez pourtant constitué des listes fortes et ambitieuses. Déception quand même aujourd'hui.
Écoutez, globalement, on est satisfait au niveau du siège en Ajoie qu'on a perdu. Il faut se rappeler qu'il y a 5 ans, on l'avait eu en troisième répartition à quelques voix ou quelques suffrages près. Donc, ce n'était pas une surprise pour nous. Aujourd'hui, on a d'autres partis qui sont arrivés sur la scène politique, par exemple les Verts libéraux. On sait que sur certains sujets, on a des philosophies qui peuvent être proches. Donc, on savait qu'on risquait d'avoir des suffrages qui partiraient sur les Verts libéraux, par exemple, de nos rangs. Donc, ce n'est pas une surprise pour nous parce qu'on s'attendait à ce que ce 5e siège soit vraiment sur le ballon. Et puis on l'a perdu, mais on sait l'expliquer.
Évoquons un instant l'élection au gouvernement. Votre ministre Jacques Gerber est placé dans le quatuor de tête, sans perspective de mauvaise surprise au deuxième tour. Il faut appeler un chat un chat. Mais il y aura bien un match entre le PCSI sortant David Herret et le PDC Stéphane Babet. Le PLR va soutenir le retour de 2 sièges PDC à l'exécutif ?
Aujourd'hui, c'est trop tôt pour que je vous réponde, parce qu'on doit, au niveau du comité directeur, analyser les choses. On va convoquer cette semaine un comité élargi pour discuter de tout ça et puis de la stratégie qu'on appliquera au deuxième tour. Aujourd'hui, notre priorité, c'est effectivement de conserver un gouvernement de droite.
Donc de le faire basculer, puisqu'il est au centre-gauche
alors
aujourd'hui.
Alors écoutez, notre objectif, c'est qu'au niveau du canton du Jura, qu'on ait un gouvernement de droite. Donc nous, on va travailler pour élire notre ministre Jacques Gerber, qui a fait un très bon travail sur les 5 dernières années. Aujourd'hui, on va se concentrer là-dessus, et puis on verra dans les prochains jours un petit peu s'il y a des contacts qui se prennent, etc. Pour l'instant, on n'a pas encore de stratégie à ce niveau-là.
Vous êtes franc-montagnard, Irène Donzé. Le régionalisme, est-ce que c'est important? Si David Herret est évincé du gouvernement, il n'y aura plus de Taignon à l'exécutif. Est-ce que c'est grave?
Écoutez, moi, je ne peux pas décider pour les électeurs de nouveau. Donc voilà, c'est bien que toutes les régions soient représentées. Je crois que quand on est ministre jurassien, on doit travailler pour l'ensemble du canton. Je pense que c'est ce que les ministres doivent faire. Et puis les régionalismes sont importants, mais à un certain niveau, les décisions doivent se prendre dans l'intérêt de la population globale du canton et pas seulement d'un district.
Merci beaucoup, Irène Donzé, d'être venue en direct dans ce
Merci.
Journal. Belle journée.
Merci.
La Suisse compte 8737 nouveaux cas de coronavirus en 72 heures, annonce faite il y a quelques minutes par l'Office fédéral de la santé publique. 14 décès supplémentaires en lien avec la maladie ont été enregistrés. 171 malades supplémentaires ont été hospitalisés durant ce laps de temps à l'échelle nationale. Et puis la conseillère d'État vaudoise Béatrice Métro a été testée positive au coronavirus. Elle restera 10 jours au moins en quarantaine à son domicile à compter du samedi 17 octobre. La situation n'entraîne pas la mise en quarantaine de l'ensemble du Conseil d'État vaudois. Une des figures marquantes de la vie politique suisse n'est plus. René Felber est décédé ce week-end. Le socialiste neuchâtelois est mort à l'âge de 87 ans. Ancien président du Locle, député puis conseiller d'État, René Felber a également laissé son empreinte sous la coupole et lors de son passage au Conseil fédéral de 1987 à 1993. Son bilan comporte toutefois un point noir de taille, l'échec de l'adhésion de la Suisse à l'espace économique européen. Retour sur le parcours de l'ancien conseiller fédéral René Felber avec notre correspondante à Berne, Hélène Yost.
René Felber, c'est un pur produit du système politique suisse. Cet instituteur de formation, réputé discret, a en effet connu chaque échelon du système. Engagé dès les années 60 au sein du Parti socialiste, il entame sa carrière au Locle, ville qu'il présidera durant 16 ans. En parallèle, il s'engagera également au niveau cantonal et national. Il passera notamment 14 ans à la Chambre du Peuple, dont une année en tant que chef du groupe socialiste. Puis, retour à Neuchâtel, René Felber entre au Conseil d'État et il restera jusqu'en 1987. C'est à ce moment-là qu'il reviendra à Berne pour enfiler une toute nouvelle casquette, celle de ministre en charge des Affaires étrangères. Il occupera cette fonction de 1988 à 1993. Son empreinte, c'est celle d'un combat perdu, le combat pour faire entrer la Suisse dans l'Union européenne. Il s'était fortement engagé dans ce dossier. Le rejet dans les urnes de l'adhésion à l'espace économique européen restera son plus grand échec. Il quittera peu après ses fonctions fédéral pour des raisons de santé. Mais ce départ ne sonne pas pour autant la fin de son engagement. En 1994, il présidera la toute nouvelle Assemblée interjurassienne, une mission diplomatique qui ajoute encore une corde à l'arc déjà bien garni de René Felber.
Enfin, à l'étranger, des dizaines d'individus de la mouvance islamiste font l'objet d'opérations de police en France. Les actions sont menées depuis ce matin et se poursuivront ces prochains jours, a annoncé le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Plus de 80 enquêtes ont été ouverte pour incitation à la haine sur Internet depuis l'assassinat de l'enseignant Samuel Paty vendredi à Conflans-Sainte-Honorine.
Vous écoutez RFJ, les 12h27.
Sport. Hockey sur glace, un derby qui s'annonce offensif dans la capitale jurassienne. Le HC Delémont-Vallée affronte le HC Saint-Imier ce soir à 20h en Première Ligue. Le néo-promu Delémontin pointe pour le moment à une très belle quatrième place alors que les Imériens sont sixième. Les deux équipes affichent des dispositions offensives plutôt séduisantes. 5 buts par match en moyenne pour le HCDV, près de 3,5 de moyenne pour le HC Saint-Imier. C'est le secteur défensif qui doit à présent être adapté dans les deux camps. Le HC Delémont-Vallée encaisse en moyenne 4 buts à chaque rencontre, ce qui déplaît à son entraîneur Michael Schettla.
On n'est pas très content, on le sait. On a vraiment donné beaucoup de buts gratuits, comme je dis. On a un petit peu de largesse défensive, mais ça, c'est vrai qu'on est beaucoup offensif. Et puis maintenant, il faut qu'on pense beaucoup plus à défendre, parce que c'est clair que là, c'était des matchs où on a gagné avec pas mal d'écart, mais justement, comme un derby comme ce soir, ça peut faire la différence de 1 ou 2 buts, donc il faudra vraiment être plus vigilant en zone de défense. Mais ça, on sait que c'est quelque chose qu'on devra vraiment rectifier et qu'on devra être meilleur pour la suite.
C'est quoi du coup le souci, entre guillemets? C'est plutôt un aspect tactique avec une équipe un peu trop portée vers l'offensive pour l'instant?
C'est surtout si en repli défensif, des fois on a un peu tendance à trop garder le puck que de chercher le joueur qui est libre. Peut-être qu'on a des fois un petit peu pas pensé ou oublié qu'on est monté d'un cran et puis qu'on ne peut pas laisser... 2 mètres, le joueur, on doit vraiment le tenir à la culotte et puis pas lui laisser la chance de shooter.
Et ce n'est guère plus glorieux du côté de Saint-Imier. La formation imérienne encaisse elle aussi presque 4 buts par match depuis le début de la saison. Son entraîneur Steve Pochon.
On n'est pas forcément concentré sur cette tâche-là et puis ça nous coûte un peu des non-matchs comme on l'a pu le faire à Neuchâtel. C'est vrai que je suis satisfait parce qu'on a gagné les matchs qu'on devait gagner à la maison. Mais après, à l'extérieur, défensivement, c'est vraiment pas là où on voudrait être, quoi.
Qu'est-ce qui vous manque concrètement défensivement?
Alors, un peu plus de concentration, de détermination. Et puis voilà, c'est un état d'esprit qu'il faut avoir. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire à mes joueurs qu'on joue à la dinette un petit peu derrière, comme ça, on joue à une main. On doit être beaucoup plus concentré, beaucoup plus dur sur l'homme. Et puis, on donne des buts beaucoup trop faciles. Et puis après, on tombe dans ce grainage un petit peu négatif. Et puis, c'est pas bon, mais... C'est vraiment dans la tête qu'il faut avoir un déclic, c'est une question de temps, j'espère.
Un dossier réalisé par Michel Léoni, le derby de Première Ligue entre le HC Dolémont-Vallée et le HC Saint-Imier, c'est donc ce soir à 20h sur la glace de la capitale jurassienne. En inline hockey, la voie de la continuité au SHC Rosmaison, la première équipe du club Vadet sera toujours entraînée par Cédric Boss la saison prochaine. Son contrat a été prolongé d'une saison. Cédric Boss est à la tête de l'équipe Fagnon depuis 2017. Il a déjà remporté 2 titres nationaux avec les Rossignols. Enfin, en motocyclisme, Stéphane Frossard titré. Le motard jurassien a obtenu ce week-end le titre de champion de France Supersport 600. Sur le circuit de Pau, le jurassien n'a toutefois pas pu grimper sur le podium. Il est néanmoins d'ores et déjà assuré du titre à l'issue de cette avant-dernière étape du championnat.
Merci François Comte. On poursuit avec la météo. Il y aura un petit garçon à vous annoncer dans un instant. Des conditions ensoleillées sous un ciel parcouru de voiles d'altitude. Voilà ce qui est prévu pour la suite de cette journée avec des températures max de 11 degrés aux Franches-Montagnes et 14 en plaine. Et demain, comme aujourd'hui, du brouillard le matin par endroits, puis il y aura du soleil malgré un ciel traversé de nuages par moments assez nombreux. Et le mercure va grimper demain jusqu'à 16 degrés aux Franches-Montagnes et 17 en plaine.